Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, il est 18h15 à Niamey. Bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission du Forum du studio Kalangou, une émission dans laquelle se font des échanges sur des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez au quotidien. Il s'agit d'une émission que le studio Kalangou diffuse à travers ses 45 radios partenaires répartis sur l'ensemble du territoire national du Niger. Le thème objet de notre débat de ce soir porte sur la question des implications de l'indépendance d'un pays, cas du Niger. Quelle est la signification concrète de l'indépendance d'un pays? Comment le Niger a-t-il accédé à son indépendance? Quelles sont les implications de l'accession du Niger à l'indépendance? Quels sont les défis actuels du Niger indépendant? Auditeurs et auditrices, c'est donc pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces questions que nous avons invité Dr Amadou Boubacar Hassan, qui est un ancien chercheur au niveau de l'Université Abdou Mouhoun de Niamey, juriste constitutionnaliste. Nous avons invité Ibrahim Diori, membre de l'association Alternative Espace Citoyenne, et également Monsieur Nouha Arzka, qui est acteur de la société civile, président du MPCR, qui sera avec nous, mais au téléphone. Pour ce qui est de la modération de l'émission, vous êtes avec Bakimba Touré Al-Mustapha. Le 3 août 2020, le Niger a fêté le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. En effet, le Niger est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui faisait partie des anciennes colonies de la France. C'était au courant des années 60 que la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest colonisés par la France ont accédé à l'indépendance. Plus précisément, le 3 août pour le cas du Niger. C'est ainsi qu'il ressort de l'article 1er de la Constitution du Niger que l'État du Niger est un État indépendant et souverain. Il faut noter qu'étant une ancienne colonie, l'accession à l'indépendance de l'État du Niger a eu des effets sur les relations avec la France qui était le pays colonisateur, de ses relations avec les autres États du tiers-monde, mais aussi du point de vue de la gestion de sa politique interne. Il s'agit donc d'une question importante qui mérite d'être débattue afin de permettre à la population d'être édifiée sur les implications de cette accession à l'indépendance et faire l'état des lieux de la situation actuelle du Niger indépendant, c'est-à-dire les défis auxquels le Niger fait face aujourd'hui. Pour ce faire, et pour faire une bonne entrée en matière, je vous propose d'écouter Sanoussi Tambari-Jakou, économiste de formation et homme politique, sur les critères qui permettent de dire qu'un État est indépendant.
Un État est indépendant lorsqu'il dispose pleinement de sa souveraineté. Dans le cas de cette souveraineté, il faut comprendre que cet État dispose de la maîtrise de son territoire. Donc, pour qu'un pays soit considéré comme indépendant, il faut nécessairement qu'il soit d'abord un pays, qu'il soit une population, une nation, et ensuite un État, c'est-à-dire une administration. Le pouvoir de ce pays donc, exerce la souveraineté sur le pays, les sources et ressources du sol et du sous-sol, et il encadre ses populations. Et il fait maintenir la paix, la tranquillité et la sérénité au niveau donc de ses populations, au profit de ses populations. Le pays, non seulement il a la maîtrise de toute sa politique intérieure, mais encore il a la maîtrise de sa politique extérieure. Un pays indépendant doit nécessairement avoir une armée, une défense nationale qui garantit l'intégrité du territoire et la tranquillité des habitants. Donc un pays indépendant, il est représenté à l'extérieur au niveau d'autres pays et il peut être membre des institutions internationales, mondiales, continentales, africaines, sous-régionales ou autres. C'est donc en cela qu'on peut dire que le pays est réellement indépendant lorsqu'il contrôle tout ce qui est contenu dans son territoire et tout ce qui est nécessaire dans l'exercice de la gestion de ses territoires, de son économie et de sa société.
Alors, docteur Ahmad Boubacar Hassan, constitutionnaliste et enseignant-chercheur à l'Université Abdoulaye Niamey, dites-nous du point de vue juridique, quels sont les critères qui permettent de dire qu'un État est indépendant?
Merci le studio Kalangou de l'occasion que vous nous donnez de faire ce débat à l'occasion, comme vous l'avez dit, du 60e anniversaire de l'accession de l'État du Niger à la souveraineté internationale. D'abord, la question de l'indépendance ici, du point de vue juridique, renvoie à la question de la souveraineté. Pour le juriste, l'approche, c'est qu'il faut définir d'abord l'État. L'État est défini à travers deux éléments, notamment les éléments sociologiques qui comportent le territoire, la population et le pouvoir politique ou l'autorité qui s'exerce. C'est pour ça qu'on dit que l'État, c'est un groupement humain fixé à demeure sur un territoire sur lequel s'exerce l'autorité politique. Mmh. Et le deuxième élément du point de vue juridique, c'est ce qu'on appelle l'élément juridique justement de l'État qui renvoie à la question de la personnalité juridique et de la souveraineté. Et cette souveraineté à laquelle a fait allusion Jacou s'interne, s'applique, du moins, s'exerce autant sur le plan interne où l'État, en tant que personne morale de droit public, assoit sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Donc, sur le plan interne, il ne peut pas y avoir une organisation ou une autre autorité politique qui soit au-dessus de l'État en tant que personne morale. Lorsque l'État prend des décisions, ça s'applique sur l'ensemble du territoire. Maintenant, l'implication, justement, sur le plan international, c'est le fait qu'il devient un sujet de droit international qui attribue l'ensemble, justement, des prérogatives, des compétences dévolues à un État souverain qui s'engage sur le plan international vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que le Niger, à partir de la proclamation de l'indépendance le 3 août 1960, est devenu un sujet de droit international. Le Niger a adhéré à l'ONU après la proclamation de l'indépendance le 20 septembre 1960. Voilà, donc ça, c'est déjà un signe où on n'est plus, il n'y a pas une autre puissance, en tout cas tutorale, qui exerce la souveraineté au nom de l'État. Avant l'indépendance, vous rappelez que le Niger, comme les 12 autres colonies, était dans ce qu'on appelle la communauté franco-africaine. Mm-hmm. Et on avait, le Niger à l'époque avait une constitution, la constitution du 12 mars 1959, dans le cadre de cette communauté franco-africaine, qui instituait ce qu'on appelle le président du conseil, qui exerce un certain nombre d'attributions. Et là, quand vous prenez la constitution, toutes les attributions dévolues au président de la République, justement, étaient exercées par le président français, puisqu'on est dans le cadre de cette communauté franco-africaine.
D'accord, merci. Merci, docteur Hassan Ahmad Boubacar. Nous allons à présent écouter Nouar Zeka. Quels sont, d'après vous, les critères clés qui caractérisent l'État indépendant?
Je vous remercie. Je pense que pour gagner du temps, on ne va pas revenir sur ce que Jacou a dit et ce que Boubacar a dit. C'est effectivement trivial. C'est bien comme ça qu'il faut espérer avoir un État qui pourrait s'appeler un État indépendant lorsqu'il a la maîtrise de toutes ces questions évoquées par Sanoussi et puis par M. Boubacar. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que justement, Boubacar vient de vous rappeler qu'il y avait une constitution du 12 mars 1959 qui, dans le cadre de la communauté française, donc on avait déjà, il faut le noter, on avait proclamé déjà la République à partir de 1958, mais c'est une république autonome à l'intérieur de la communauté française. Donc, on n'était pas encore indépendant. C'est juste une sorte de relative, et comment on appelle, autonomie qui a été donnée. Mais les grandes décisions se prennent et sont contrôlées par, justement, la métropole à l'époque. Donc, par la suite, avec la constitution du 12 mars 1959, on a pu avoir d'autres possibilités d'action. Sinon, en fait, comment on appelle ça, qui ont pratiquement permis au territoire du Niger, parce qu'à l'époque, il faut le savoir, à la différence même des autres, le Niger était un territoire militaire qui appartenait pratiquement à cette communauté. Il n'avait même pas le même type de statut que les autres, comme le Sénégal, le Soudan français, et puis comment on appelle ça, c'est bien sûr, quand on est arrivé à la phase donc de cette volonté d'action pour aller vers justement l'indépendance des États que finalement la République du Niger ayant été déjà proclamée, l'État du Niger donc s'est mis à se constituer en tant qu'État et par la suite donc on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle désormais la République du Niger indépendante et la proclamation ayant été faite à partir du 3 août 1960, on était censé avoir, et comme l'a dit Sanoussi, le contrôle sur tout ce qui constitue et les fondamentaux qui caractérisent un État indépendant.
Alors, merci Nouarzouka. Nous allons revenir, nous allons à présent demander à Ibrahim Diori de Alternative Espace Citoyen de nous dire quel complément a-t-il à apporter par rapport à cette question des critères d'État indépendant.
Je crois qu'il n'y a pas de complément sur la base des éléments qu'ils ont fournis qui caractérisent un État indépendant. Que seulement pour dire que l'État indépendant en droit signifie État souverain, docteur l'a relevé, et l'exercice de cette souveraineté a deux dimensions. Une dimension interne de l'État avec toutes ses aptitudes à s'organiser, à définir ses institutions, à définir ses orientations politiques, et une dimension externe qui le met en relation avec les autres États internationalement parlant. Et parmi ces deux critères internationaux qui caractérisent un État souverain, c'est l'exclusivité et c'est la plénitude du pouvoir souverain.
Alors dites-nous quelle est aujourd'hui la conséquence ou bien l'implication de cette accession à l'indépendance.
C'est ça, en fait, je dis la conséquence, c'est l'exclusivité du pouvoir souverain. C'est dire que le pouvoir qu'il détient à pouvoir s'organiser lui appartient en propre. Il ne partage avec aucune autre entité juridique. Et il n'entre en relation avec les autres États que par sur la base de sa seule volonté. Adhérer à une organisation, à signer des accords, c'est sa volonté en tant que pouvoir souverain au-dessus duquel il n'y a personne. C'est ça, en théorie, un pouvoir souverain. À ne pas confondre avec les notions voisines d'autonomie qui constituent une sorte de marge de manœuvre, mais sous l'autorité d'une entité souveraine, et de puissance qui renvoie là à une notion pas juridique, mais une situation matérielle avec l'aptitude à exercer cette exclusivité et cette plénitude du pouvoir juridiquement consacré. En théorie, donc, un État est souverain, il est placé au même pied d'égalité que les autres États.
D'accord, donc merci.
L'État Niger souverain, à partir de son accession à la personnalité juridique internationale, se place au même pied d'égalité en droit que l'ancien colonisateur, c'est-à-dire l'État français. Aujourd'hui, l'État du Niger en droit est égal à l'État français, égal à l'État aux États-Unis, égal à l'État chinois. Donc, c'est l'égalité souveraine des États. On les loge à la même enseigne et sont tous au même pied d'égalité sujet du droit international.
D'accord, merci Ibrahim Diori. Nous allons revenir au docteur Hassan Ahmad Boubacar. Dites-nous les implications aujourd'hui de l'accession à l'indépendance.
Bon, je pense qu'après la proclamation donc, de l'indépendance, comme je l'ai rappelé tantôt, le 3 août 1960, vous savez, dans le cadre de la communauté, on avait une assemblée législative. Et le premier signe, c'était de rompre, justement, il faut qu'il consente une rupture sur le plan juridique où l'assemblée, donc cette fois-ci nationale, s'est constituée en assemblée constituante pour adopter la constitution du 8 novembre 1960 qui marque justement, en tout cas, qui est un signe de l'indépendance de l'accession du Niger à la souveraineté en tant que sujet de droit international. Donc ça, c'est le premier aspect. Et dans cette constitution, effectivement, sans dire qu'il y ait un certain nombre d'attributs et d'attributions qui sont reconnus à l'État, notamment l'emblème, donc l'hymne national, le drapeau donc tricolore, l'hymne national, fraternité, travail, des progrès. Et il y a la question quand même de l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisqu'on n'est plus régenté par des trucs, puisque là, il va falloir que si vous référez à la constitution du 8 novembre 1960, vous verrez que le pouvoir judiciaire est indépendant et que le président de la République est le garant, justement, de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc voilà un certain nombre de signes en tout cas qui confèrent à ce sujet à l'État du Niger ou au Niger devenu sujet de droit international qui lui permettent d'exercer sa souveraineté pleine et entière sur l'ensemble donc de ses ressources, les institutions comme il a dit, sur le plan interne, mais également parler sur un pied d'égalité dans les concerts des nations avec les autres États indépendants qui auront souverainement souscrit à des engagements internationaux, que ce soit dans le cadre des organisations régionales, sous-régionales ou même dans le cadre des Nations Unies, où j'ai dit que le Niger, une fois été devenu indépendant, a souverainement décidé justement d'adhérer à l'ONU, donc à l'Organisation des Nations Unies, le 20 septembre 1960, pour que le Niger puisse justement, à travers son représentant, prendre la parole au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies comme un État souverain pour dire les positions de l'État du Niger aux côtés, comme il a dit, de l'ex-colonie, et en tout cas la France qui est aussi un État souverain sur le plan international. Donc je pense que c'est extrêmement important. Mais tout ce qu'il dit, et il l'a révélé, j'aurais peut-être, il dit sur le plan théorique, puisque dans la pratique aujourd'hui, 60 ans après, avec le recul qu'on prend, est-ce que véritablement le Niger est indépendant?
Oui, d'accord, merci docteur. Nous allons venir à cette question. À présent, écoutons le président du MPCR, Nouar Zeka, pour nous dire quel complément a-t-il apporté par rapport à cette question d'implication de l'indépendance d'un pays.
Effectivement, comme il a rappelé, Dr. Hassan, l'implication de l'indépendance concerne aussi à l'État des attributs. Et ces attributs-là sont définis évidemment dans la Constitution. Maintenant, il y a la haute main qu'on est censé avoir pour exprimer notre souveraineté sur donc la définition de nos orientations politiques et nos choix libres de partenaires de coopération. Et en tant que, comme ils disent, le sujet du droit international, avoir la possibilité justement de choisir les organisations auxquelles on peut librement prendre part et avoir la possibilité de nous affirmer chaque fois que nécessaire. Évidemment, donc, quand on regarde sur le plan de la mise en œuvre pratique de ces implications-là, bon, il y a eu des tentatives, mais j'avoue que la nature de la façon dont on est arrivé à...
D'accord, merci, Président.
La proclamation de notre indépendance et crée tout le problème fondamentalement.
Nous avons compris, Président.
C'est une proclamation qui n'est pas la même chose qu'une proclamation affirmée et dans un contexte d'une véritable libération à l'issue d'une conquête comme ça a été le cas de l'Algérie ou d'autres pays qui ont pu obtenir leur indépendance de manière affirmée.
D'accord. Donc, merci, Président. Nous avons compris. Nous allons à présent passer à la seconde partie de notre forum qui est consacrée à la situation actuelle du Niger indépendant. Donc, après son accession à l'indépendance le 3 août 1960, le Niger est resté dans une relation étroite avec l'ancienne métropole, a établi d'autres relations de coopération avec les autres États du monde et a intégré plusieurs conventions continentales tout comme internationales. Ces coopérations sont souvent d'ordre économique, souvent d'ordre militaire. La question que nous allons aborder à présent est celle de savoir l'effet des relations qu'entretient le Niger avec les autres États sur son indépendance. Mais nous allons d'abord écouter Sanushi Tambari Jakou, économiste de formation et homme politique du Niger, avec qui nous nous sommes entretenus sur la présence des bases militaires étrangères sur le sol nigérien et son impact sur l'indépendance du Niger.
Le Niger est un pays indépendant dont les dirigeants ont accepté librement ou plus ou moins librement d'accueillir des troupes étrangères sur le sol du territoire du Niger. Ce n'est pas parce que des dirigeants ont accepté de faire installer des bases étrangères sur le territoire d'un pays indépendant que ce pays cesse d'être indépendant. Il est indépendant, simplement son indépendance est tronquée dans la mesure où il doit avoir la plénitude de l'exercice de tout le pouvoir. Il doit garantir la sécurité intérieure et extérieure du territoire et pour cela, il doit avoir à sa disposition des forces armées nationales. Mais s'il ne parvient pas à le faire de par lui-même et qu'il fait appel à des forces étrangères ou que des forces étrangères s'imposent pour venir participer à la défense du territoire, cela ne fait pas en sorte que le pays cesse d'être un pays indépendant. Seulement, l'indépendance est tronquée. C'est un pays qui est indépendant. Mais malheureusement, les dirigeants ne parviennent pas à assurer la plénitude de leur pouvoir en ce qui concerne la protection du pays. Il faut tout ça. Mais lorsqu'il ne peut pas le faire, d'autres le feront à sa place et évidemment, ils profiteront de cette aide qu'ils peuvent lui apporter pour essayer de grignoter sur les pouvoirs publics. Donc, de grignoter un peu sur l'indépendance de ce pays. Mais malgré tout, il est quand même indépendant.
Alors, merci Sanusi Tambari Jakou. Nous allons revenir vers Ibrahim Diori des Alternatives Espaces Citoyens. À votre avis, au regard des relations que le Niger entretient avec d'autres États, coopération économique tout comme militaire, Peut-on véritablement dire que le Niger aujourd'hui est un État indépendant? Quelle réaction avez-vous apportée par rapport à ce que vient de nous dire Sanusi Tamborija?
Si j'évalue la réalité de l'État du Niger à la lumière des deux critères, plénitude et exclusivité du pouvoir souverain, eh bien on comprendra que formellement, d'un point de vue juridique, c'est un État souverain, un État indépendant, qui siège au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies au même titre que les autres. Mais d'un point de vue matériel, on est loin de l'effectivité de cette souveraineté-là. Mmh. On peut l'illustrer avec quelques éléments peut-être frais, à chaud, parce qu'un État, la dimension interne de sa souveraineté, c'est qu'il organise son mécanisme de fonctionnement. Il est libre de choisir, on dit tout peuple a la liberté de s'organiser et de déterminer son mécanisme de fonctionnement interne et de s'en tenir. Et l'élément qui fixe le mécanisme d'organisation de l'État du Niger, c'est sa loi fondamentale, sa constitution. Aujourd'hui, on voit bien sur l'exclusivité et la plénitude de son pouvoir de se défendre en tant qu'État et d'entretenir des relations avec les autres États. Et bien, la Constitution du Niger dit, par exemple, qu'il est libre d'entretenir des relations de défense avec tous les autres États. Mm-hmm. Ce n'est pas en soi un problème. Mm-hmm. Mais ce que les conditions de détermination de ce mécanisme de défense, des accords de défense, et c'est déterminé par la loi fondamentale de ce pays. Mm-hmm. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes presque... Dans la réalité, nous sommes sous occupation militaire, occupation juridiquement parlant, parce que le cadrage juridique qui justifie la présence d'une force tierce sur notre territoire est encadré. Mmh. Et il se trouve, le mécanisme d'encadrement, c'est quoi? C'est que les accords de défense, parce que c'est le cas précis qui m'intéresse, ne peuvent être ratifiés par le making power, comme le titulaire du pouvoir qui l'exerce, le président de la République, qu'après avoir rempli la formalité de l'autorisation préalable de ratification de cet instrument juridique international par l'Assemblée. Cela n'est pas fait au Niger. Nous avons des bases militaires présentes sur le territoire national nigérien sans que cette formalité substantielle, constitutionnelle d'autorisation, de ratification qui doit être donnée par l'Assemblée nationale au président de la République, que ce soit, les militaires sont là.
Donc est-ce que cela remet en cause l'indépendance du Niger?
Oui, ça veut dire qu'il y a, un problème d'exclusivité. Mm-hmm. Si ça se fait, doit y avoir aucune pression. Et ça doit se faire dans le respect du mécanisme d'organisation de ce peuple, parce que c'est lui le souverain. Mmh. Parce que, à la différence, c'est que dans le contexte, le siège de souveraineté peut varier d'un pays à un autre. Mmh. Le choix qu'on a fait, c'est que la souveraineté appartient au peuple, pas au président de la République ou autre. Mmh. Et le souverain a organisé comment est-ce que sa vie à l'interne se manifeste et ses relations avec les autres États. Mmh. Et le critère que le souverain a fixé pour dire que lorsque j'ai envie, dans mon mécanisme de ma défense, d'entrer en relation avec les autres États, et c'est prévu aussi dans la Charte des Nations Unies, la légitime défense individuelle tout comme collective. Mmh. C'est permis, mais ça doit se faire en respectant les règles fondamentales des peuples, n'est-ce pas? Mmh. Dans le contexte nigérien, nous avons ces bases-là qui sont présentes et que cela n'est pas respecté. Et pour ceux qui s'ouvrent un tout petit peu, lors des débats qui ont précédé l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y avait deux camps qui voulaient qu'on inscrive déjà l'interdiction de la présence militaire étrangère sur le territoire africain. Mmh. Et l'appeler déjà d'occupation. Mmh. Et la partie qui a un peu rapporté, je dis que mais cette présence doit être une présence légale, donc conforme aux constitutions du pays en question. Mmh. Nous sommes sur le cas du territoire nigérien, la présence illégale, non constitutionnelle, des forces étrangères. Les citoyens s'offusquent, dénoncent, mais de facto, on constate qu'ils sont là. Mmh. Ça, c'est un premier élément qui nous montre le problème d'ineffectivité de souveraineté. Mmh. Le second, c'est le rapport sur nos ressources. Le souverain exploite souverainement ses ressources. Et on voit bien des types d'accords à la limite imposés à l'État du Niger. Et l'exclusivité, par exemple, de la France. On connaît tous les déboires que pendant Tanja, quand elle a voulu diversifier, n'est-ce pas, les partenaires par rapport à l'exploitation de l'uranium. Et c'est un fait pratiquement établi. Aujourd'hui, quand vous voulez diversifier les partenariats par rapport à la France, c'est comme si c'est la chasse gardée. Ça, ça chasse la compréhension élémentaire qu'il y a de souveraineté. Le souverain choisit avec qui il traite. Par rapport à ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, ce sont des éléments qui démontrent aussi le problème de souveraineté sur le choix de modèle politique que nous voulons. Ça, c'est l'attitude d'un État souverain. Ça ne doit pas être imposé. Donc, c'est comme si, comme disent les historiens, lorsqu'en 1960, le colonisateur, avec le contexte aussi qui était, parce qu'il y avait une résolution des Nations Unies qui sur l'octroi, c'était le mot même utilisé, l'octroi des indépendances, n'est-ce pas? Et après, c'est comme si c'est un mécanisme qui est établi de partir pour mieux rester.
D'accord.
Et
donc
aujourd'hui,
nous avons
on a
compris
l'impression que nous avons des États en fait. Et aujourd'hui, les débats même qui se passent sur la facilité avec laquelle l'ancien colonisateur juge publiquement les appréciations sur. On voit bien le débat qu'il y a sur la couleur.
D'accord. Donc merci Ibrahim Diori. Nous allons revenir vers.
Déjà, ça permet d'établir entre la souveraineté formelle et la puissance pour faire en sorte que la plénitude et l'exclusivité du pouvoir.
D'accord,
juridique,
donc merci, merci
donc,
Ibrahim Diori.
On compte de la réalité, en fait.
Nous allons revenir, Inch'Allah. Nous allons à présent demander à Dr Hassan Ahmad Boubacar de nous dire un peu par rapport à ces relations que le Niger entretient avec d'autres États, la légalité. Qu'en est-il du point de vue de son indépendance?
Donc, merci. Je pense que en ce qui concerne la théorie de la souveraineté, puisqu'on l'a dit, c'est sur le plan théorique, le principe de légale souveraineté des États, qu'il soit l'État, un État fort, un État faible, un État riche, pauvre, sur le plan juridique, du point de vue théorique, c'est le principe de l'égalité souveraine des États. Cela se matérialise au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, où tous les États, le Niger a une seule voix. Le président de la République prend la parole à la tribune des Nations unies, l'Assemblée générale. Le président américain fait autant. Donc là, c'est un État, une voix. Mais on voit justement dans d'autres circonstances où ce principe de légale souveraineté des États a des limites. Tout à l'heure, il a parlé quelques exemples. Mais bien avant ça, je pense que l'un des aspects, je voulais revenir un peu sur ça, c'est justement la question de la présence des forces armées militaires étrangères sur notre pays. Lorsque le Niger accédait à l'indépendance en 1960, le 1er août 1960, les forces armées nigériennes ont été créées. Donc, on a une armée nationale qui est l'une des missions régaliennes constitutionnelles, c'est la défense de l'intégrité du territoire. En cas d'agression extérieure, on a une force, en tout cas des forces dédiées à la défense de l'intégrité du territoire qui sont là, avec en tout cas tous les moyens et toute cette hiérarchie qu'il y a, qu'ils font le faire. En ce qui concerne également La souveraineté des ressources, puisque une fois que les États sont indépendants, tout ce qui a ressources naturelles du sous-sol appartient au peuple qui doit exercer sa souveraineté. On a vu pour le cas du Niger, bien avant aujourd'hui, dès 1960-61, dans les années 60, pratiquement au-delà du Niger, la France a signé ce qu'elle a appelé des accords de coopération militaire avec certaines colonies pour avoir une mainmise pour tout ce qui va se passer au niveau en termes de défense de l'intégrité du territoire pour ces États qui viennent, en tout cas ces ex-colonies qui viennent d'accéder à la souveraineté internationale. Déjà, c'est une façon de contrôler ce qui est en train de se passer. Et on l'a vu bien avant aujourd'hui, en 1974, l'une des raisons du coup d'État de 1974, c'est lorsque le président Diori avait voulu revaloriser le prix de l'uranium. Aujourd'hui, l'uranium nigérien, c'est ça qui permet à la France de s'éclairer pratiquement à 80%. Aujourd'hui, ça fait 48 heures, on est sous coupure. Mais ce qui freine notre indépendance, sur le plan matériel, comme il a dit, aujourd'hui, on ne peut pas développer un État tant qu'on n'a pas l'indépendance sur le plan énergétique. Pourtant, on produit de l'uranium. Mais cela n'a pas été parce que la France a fait même mise, en tout cas, c'est accaparé de nos ressources, c'est elle qui fixe le prix de l'uranium et ce type de choses. Maintenant, pour revenir à l'actualité brûlante, comme il a dit, en ce qui concerne aujourd'hui la question de la base, la présence des bases militaires étrangères sur notre pays, comme il l'a dit effectivement, le président de la République a la prérogative au terme de l'article 168 de la Constitution de négocier, de signer, de ratifier les traités en forme simplifiée, bien entendu. L'article 169 dit que les traités de défense et de paix et les autres qui ont une implication par rapport aux trucs étrangers doivent être ratifiés par une loi. Et aujourd'hui, le président de la République, en 2013, pour la plupart des cas, à travers le ministère des Affaires étrangères, ont signé ces accords pour justement permettre à ces bases militaires et étrangères, françaises et autres, d'être présentes. Mais malheureusement, ces traités qui ont été négociés et signés, n'ont jamais fait l'objet de ratification. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, du point de vue juridique, sur le plan constitutionnel, la présence de ces bases militaires est illégale. C'est une atteinte justement à la souveraineté de notre pays. C'est une atteinte justement à l'indépendance nationale, puisque nous avons une armée nationale, nous avons des forces de défense et de sécurité qui assurent la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Comme le président Jacou l'a dit, justement, un État souverain n'est pas interdit justement de signer des accords, parce que la plupart des accords ou des conventions sur le plan international, vous l'avez rappelé à juste titre, que ce soit des conventions ou des accords peut-être sur le plan économique, sur le plan financier ou sur
sur le plan militaire. Un pays peut justement signer un accord justement de coopération ou de défense militaire en cas d'agression, etc., un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'on vienne de façon illégale, aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui s'est raconté, y compris nos forces de défense et de sécurité, n'ont pas le droit de se hasarder à rentrer dans le périmètre justement de sécurité dégagé par notre
propre territoire. D'accord, donc merci, docteur. Je pense que nous allons partir avec Nouarzeka qui est avec nous au téléphone. Président Nouarzeka, dites-nous, au regard des relations que le Niger aujourd'hui entretient avec les autres États du monde, est-ce qu'on peut véritablement parler d'indépendance au regard de toutes ces relations économiques et militaires qu'il entretient avec d'autres États?
Oui, on peut bien parler de l'indépendance, mais l'indépendance formelle, comme il vient de vous dire, le Niger, on reconnaît le Niger en tant que pays, il a ses attributs, sa couleur, sa gendarmerie nationale, et puis ses armoiries, et puis sa devise. Et quand il y a des réunions au niveau des Nations Unies, on est membre des Nations Unies, au niveau du Niger, l'Union africaine, pardon, mais que qui est là et qui constitue le vrai problème, ce n'est pas vis-à-vis du reste du monde que nous ne sommes pas indépendants, vis-à-vis surtout de la France. La France, qui est le pays colonisateur, qui continue à maintenir dans ses liens, dans sa tête, dans sa manière de penser, et le mode de croyance que nous sommes toujours sa colonie, et il pense qu'ils peuvent toujours régenter nos politiques, nos options de politique, et ils sont vraiment dans nos pieds. Ils continuent à y être dans nos pieds. Le 24 avril 1961, ils ont signé un accord qu'ils ont appelé l'accord de défense, dans lequel ils ont prévu plusieurs choses à leur avantage, et avec l'engagement qu'au cas où on a des problèmes, évidemment, ils seront là pour nous défendre. Donc ça veut dire que déjà, il y a un problème qui est là. Et pour le cas que nous vivons aujourd'hui, c'est tellement grave ce qui est en train de se passer, cette interprétation-là, que la France a estimé, jusqu'à présent, ils ont la mentalité de la France métropolitaine et des pays d'outre-mer. Ils continuent à croire que nous sommes encore le département d'outre-mer. Ce qui a amené avant-hier seulement, le président Macron, tout le monde l'a entendu, ces accents-là, et ce qu'il a été amené à dire en considérant que uniquement à cause de l'événement qui est arrivé, un événement nationalement regrettable à tout et là. Donc, tout de suite et maintenant, le monsieur dit, il fait une réunion du Conseil de sécurité de son pays et il décide qu'il va prendre des engagements, il va prendre des mesures pour renforcer la sécurité de ses compatriotes dans notre territoire. C'est lui qui va assurer et renforcer la sécurité des citoyens français dans le Sahel, et particulièrement au Niger. Mais comment cela peut-il être possible s'il a un minimum de respect vis-à-vis de nous, s'il a un minimum de respect vis-à-vis de nos dirigeants et qui doivent être considérés comme étant ses collègues, et que s'il y a n'importe quoi, il doit discuter avec eux, négocier et voir quel type de choses doivent se faire. Non, mais il a assumé. Il a dit, et d'emblée, ils ont décidé que nous sommes un pays qui est devenu rouge, et que voilà, et c'est ce qu'ils ont comme option et comme décision. Donc ça, c'est quelque chose de très fondamental qu'il faut absolument retenir. Vis-à-vis de la France, nos chefs d'État, certains par moment, hein, on a assisté à des situations où on a des chefs d'État qui sont dociles vis-à-vis de la France, qui n'arrivent pas à affirmer leur indépendance, leur souveraineté, en tant que garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, comme cela a été dit dans la Constitution. C'est au président de la République de hausser le ton s'il y a lieu. C'est le but à lui de prendre les dispositions qu'ils imposent, c'est bien dire, pour protéger justement l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire. Mais je vous informe, et je suis formel là-dessus, en 2013, lorsque la France a décidé de faire son opération Serval, mais mon Dieu, elle a décidé de venir occuper le Niger en utilisant notre tarmac pour faire atterrir ces avions, et à partir du tarmac de l'aéroport de Niamey, ils organisaient leur opération sur le Mali. Et il n'y avait aucun accord, rien du tout. Ils sont venus, c'est plus tard que les gens ont tenté de régulariser la situation de leur présence, et une régulation qui est restée encore incomplète Parce que jusqu'à aujourd'hui, le peuple nigérien, à travers ses représentants élus, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, n'a pas été sollicité dans son autorisation à donner, son accord à donner sur la présence des bases militaires chez nous. Et je rappelle qu'à partir de 1974, et lorsqu'il y a eu le coup d'État militaire, et la première décision que les militaires ont prise à l'époque, c'était de renvoyer les bases militaires françaises, de leur demander de quitter. Et ils ont pu l'affirmer. Et ils ont été capables de le faire à partir de 1974. Et donc, c'est totalement regrettable qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a une sorte de recul par rapport à cette question-là. Maintenant, ce que ça nous a dit, ça nous a fait de la politique. C'est un politicien aujourd'hui, il est dans le pouvoir, proche du pouvoir, conseiller, comme vous l'avez dit, du président, qu'il est en train de développer ce qu'il a développé, qui n'a rien à voir avec le fond véritable de ses options, de ses opinions, ce qu'il pense de cette histoire de l'indépendance et de cette histoire de souveraineté et de la présence des bases militaires chez nous. Aujourd'hui, il essaie de se mettre dans une position de carapace pour défendre
donc,
le régime
merci,
en place.
Merci.
À qui on reproche le fait d'accepter la présence de...
Alors, merci, président, nous sommes pratiquement à la fin. Alors, merci, président Nouarzeka. Nous sommes pratiquement à la fin. Dites-nous aujourd'hui, selon vous, quel est le véritable défi du Niger indépendant?
Le Niger indépendant, le défi du Niger indépendant, c'est très clair. La première des choses, c'est que nous puissions avoir la possibilité d'assumer notre souveraineté dans le choix de nos partenaires de coopération, dans le choix de nos options de politique publique, dans le choix de nos liens avec les autres, et particulièrement sur cette question monétaire. La question monétaire, par exemple, c'est une question fondamentale et c'est une question triviale. Il faut absolument que nous ayons une monnaie avec, bien sûr, la solidarité des autres pays, mais qui soit une monnaie et contrôlée par nous, par notre volonté, comme le schéma qui est en train d'être projeté au niveau de la CEDEAO, mais pas continuer à être asservi avec une monnaie pratiquement coloniale que la France contrôle, et c'est elle qui va définir, c'est sa politique monétaire aujourd'hui et maintenant la politique monétaire européenne qu'on va être obligé de subir avec cette histoire de l'écho qu'il propose. Et l'écho, on veut la parité fixe. Et donc, par conséquent, nous condamner à subir la politique monétaire européenne, alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le développement aujourd'hui dans le monde et les pôles de croissance, les pôles de développement réussis et effectifs dans le monde, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est même pas l'Occident. C'est bien d'autres pays avec lesquels nous devons avoir un type d'organisation suivi et une méthode d'approche bien mesurée qui puisse nous permettre de tirer nous-mêmes les marrons de notre marron du pays. Et qu'on puisse avoir véritablement des relations, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, que ce soit des relations vraiment, je vais dire des relations de dignité.
Merci président, pour toutes ces précisions.
Lorsqu'on a un problème de comment on appelle, de différence de moyens, c'est certain qu'il y a, quand vous partez négocier chez les gens, il y a toujours une situation, malheureusement, de position qui fait que celui qui a la main en bas, et naturellement, il peut être amené à subir certaines choses. Mais là aussi, il faut le faire dans une certaine dignité. Comme dit l'autre, la coopération, c'est quelque chose que l'on peut être amené à bâtir dans le cadre du respect de notre dignité. Même un donneur doit avoir le respect du receveur, de celui à qui il donne. Il faut que le respect de sa dignité.
Nous d'accord, merci président, pour toutes ces précisions. Chers invités, nous sommes presque à la fin de notre émission. Dites-nous aujourd'hui, selon vous, docteur Hassan Boubacar, quel est le véritable défi du Niger indépendant?
Moi, je pense que le véritable défi du Niger indépendant, c'est le défi du développement. Quand même, le Niger, pratiquement 60 ans après l'indépendance, où en théorie, nous exerçons notre souveraineté sur nos ressources, et en sortant, nous avons défini nos orientations politiques et stratégiques. Le Niger est toujours dernier, pratiquement 9 années consécutives, le Niger dernier en termes d'industrie de développement humain. C'est inacceptable, puisqu'on a des ressources. Et ce défi du développement passe justement par la souveraineté, l'indépendance sur le plan économique, sur le plan financier. Donc je pense qu'à ce niveau, il va falloir que le Niger, justement, dans le cadre de la coopération au niveau niveau de l'espace communautaire CEDEAO puisse vraiment avoir une monnaie qui doit garantir l'indépendance, ne serait-ce que dans le domaine communautaire, pour pouvoir faire les échanges, justement, et défendre un peu la question de la parité, la fluctuation du cours de l'échange, et pour qu'on puisse avoir vraiment une monnaie qui pourra assurer la stabilité dans le cadre des échanges. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport à ces institutions financières internationales qui remettent en cause nos souverainetés dans le cadre des négociations, que ce soit dans le cadre du programme d'ajustement structurel ou d'autres programmes de coopération avec la Banque mondiale, le FMI, qui nous dicte un certain nombre de choses où l'État, tout souverain qu'il soit, est obligé justement d'accéder à certaines conditionnalités qu'on les appelle les conditionnalités de l'aide publique au développement ou pratiquement on renonce à un certain nombre de choses. Également la possibilité d'asseoir notre souveraineté sur l'ensemble des ressources naturelles du sous-sol qui nous permettra de faire des choix de partenaires qui pourront vraiment assister le Niger et financer là où le Niger leur aura dicté comme étant priorité pour pouvoir justement sortir de cette place peu enviable de dernier pays de la planète en termes d'indice de développement humain.
D'accord, merci. Ibrahim Diori, vous êtes de Alternative Espace Citoyen. Dites-nous, selon vous, aujourd'hui, le véritable défi du Niger indépendant, 60e anniversaire de l'indépendance.
Le Niger a un seul grand défi duquel découlent tous les autres. Le plus grand défi du Niger, c'est d'avoir une élite courageuse, soucieuse de la dignité du peuple nigérien et qui l'assume et qui accepte de payer les prix. Par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit sur le fait que la France a souverainement décidé de déconseiller à ses ressortissants de venir au Niger. En droit international, on ne peut pas le reprocher à l'État français. Mais l'État du Niger, en tant qu'État souverain, le droit lui reconnaît le pouvoir de prendre des contre-mesures. S'il estime que l'exercice de ton droit là met mal à l'aise moi mes intérêts, l'État du Niger souverainement décide par exemple de dire aux soldats français de quitter le territoire nigérien. Rien ne lui interdit. Il faut qu'on ait le courage d'exprimer notre mécontentement à travers le Niger. Tant qu'on n'arrive pas à avoir une élite courageuse, sérieuse, capable d'assumer le rapport avec les autres et d'exercer cette souveraineté. Parce que c'est comme le débat qu'on fait sur l'indépendance de la justice. On a beau écrire tout ça là, le droit international offre toutes ces possibilités de souveraineté. Mais c'est d'un point de vue matériel qu'on a des dirigeants couards, lâches, soumis, et qui estiment que leur survie, leur capacité de conserver et d'exercer le pouvoir dépend. Et c'est ça qui fait la force de la France. Rien d'autre. Et tant qu'on n'arrive pas à avoir au niveau interne à résoudre ce problème-là, à avoir des dirigeants capables d'opérer un choix politique et de l'assumer, ça peut coûter la vie à ceux qui ont fait le premier, le deuxième choix, mais ça fait partie du destin de tout peuple. Il faut qu'il y ait toute une armée d'élites déterminées, courageuses, qui peut faire ce choix-là, dire que voilà notre problème de développement économique et voilà l'option économique que nous faisons. Et nous l'assumons parce qu'en droit,
d'accord,
nous avons
merci.
Le droit de faire ce choix.
Merci.
Nous choisissons tel partenaire. Tous les autres problèmes vont trouver la solution si on arrive à résoudre ce préalable. Et nous n'avons pas au stade actuel une élite sérieuse, courageuse, déterminée, soucieuse de l'intérêt du Niger. Ce sont des prédateurs que nous avons.
D'accord,
ce sont
merci.
Des lâches et des mercenaires que
merci,
nous avons.
Merci, Ibrahim Diori. Alternative Espace Citoyen, nous sommes à la fin du forum de ce soir. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission forum du studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la thématique des implications de l'indépendance d'un pays, cas du Niger, afin de savoir les critères qui permettent de qualifier un état d'indépendant, les implications de l'indépendance d'un pays et les effets des relations internationales que ce pays entretient avec d'autres états, et également lancer des appels ou bien dire les défis véritables du Niger indépendant. En espérant que le débat vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez au quotidien, merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui sont diffusés à travers ces 45 radios partenaires répartis sur l'ensemble du territoire national. Nous étions dans ce forum en compagnie du docteur Hassan Ahmad Boubacar, docteur constitutionnaliste enseignant à l'université Abdoumoune de Niamey, de Ibrahim Diori de Alternative Espace Citoyen et également par téléphone de M. Nouar Zeka, président du MPCR. Au niveau de la technique, nous avons Issa Lawali et au niveau de la réalisation, Mustapha Ayouba. Pour la présentation, Bakim Batouri Al-Mustapha, merci à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci et à bientôt pour d'autres thématiques d'actualité.